On va relire, on va pas lire le chapitre au complet, on l'a lu avant notre temps de prière, mais on va lire les versets 3 à 5. Et c'est beaucoup ressorti, c'est vraiment des versets puissants, vivants de la parole de Dieu. Et dans le temps de prière, on voit ça l'a accroché pas mal de cœur, parce que c'est quand même ressorti pas mal dans les prières qu'on a adressées au Seigneur. On peut lire au verset 3, « Si nous marchons dans la chair, c'est-à-dire dans notre corps, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » On te remercie, Seigneur, de ce que nous avons entre tes mains, ta parole vivante et efficace, et que tu es le Dieu vivant, tu es au milieu de nous, tu es celui qui convainc, tu es celui qui enseigne tes enfants, tu es celui, Seigneur, le plus important dans toutes nos vies et dans cette réunion aujourd'hui, dans cette journée qui est la tienne. Donc, on s'arrête devant toi. Puisses-tu faire le silence dans chacun de nos cœurs, qu'on entende ta douce voix. Et peut-être que tu as de la réprimande pour certains, peut-être que tu as aussi aujourd'hui la conviction d'amener ceux qui ne te connaissent pas à toi. Seigneur, on te prie, s'il y en a qui ne te connaissent pas, comme leur sauveur, comme leur Seigneur, leur vie, qu'aujourd'hui ils puissent se mettre devant toi tel qu'ils sont et te recevoir toi tel que tu es. Et donc, Seigneur, on s'en remet en tes mains. Accomplis tes plans bienveillants en nous, au milieu de nous, pour ta gloire. On te le demande au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est quand même assez connu comme passage, comme je disais. Certainement qu'on peut voir avec ces versets-là qu'on est dans une guerre. Souvent, on dit qu'on est dans une guerre spirituelle, et oui, nous le sommes. Mais c'est une guerre spirituelle intérieure. Paul disait, lutte au-dedans, crainte au-dehors. Et on va se pencher sur la question. Là, aujourd'hui, là, on commence, vous avez pas remarqué dans le bulletin, c'est le Dieu qui nous secourt de nous-mêmes. C'est le titre du message, partie 1. Aujourd'hui, on voit la première partie de deux messages, mais dans le mois de juin, on va embarquer avec vraiment encore tout un peu la même idée. Donc, je vous explique un peu où est-ce qu'on s'en va, non seulement pour les deux prochaines semaines, bien aujourd'hui et la semaine prochaine, mais aussi pour le mois de juin. On va se pencher sur la question de cette guerre à l'intérieur. Puis dans ce message-ci et le suivant, on va regarder ce que Dieu nous appelle à croire. OK? À croire pour jouir de la vie, de notre relation avec ce Dieu qui nous secourt de nous-mêmes. OK? Qu'est-ce que Dieu veut qu'on croie? Et dans les versets, dans les messages suivants, dans le mois de juin, on va voir que cette foi doit donner du fruit, doit produire quelque chose. Et donc, après avoir vu ce que Dieu veut qu'on croie pour jouir de cette vie qu'il a pour nous, on va voir ce que Dieu veut qu'on fasse pour en jouir. Et donc, la foi et l'obéissance de la foi. L'obéissance qui résulte de la foi, la fondation de la foi et le fruit de l'obéissance qui en résulte. Pourquoi? Parce que le juste vivra par la foi. Et on ne marche pas selon la vue, on marche par la foi. Maintenant, j'aime ça au verset 15, ça dit, puis tantôt quand on l'a lu, j'ai mis l'accent, Paul qui dit au verset 15 qu'il ne voulait pas se glorifier dans les travaux d'autrui hors de leur limite. Et ça ici, c'est dans le contexte de son œuvre missionnaire qui s'est rendu là-bas. Mais il dit, mais nous avons l'espérance, si votre foi augmente, de devenir encore plus grand parmi vous dans notre propre domaine. La foi qui est vivante, grandit, produit du fruit. Et de la foi des Corinthiens dépendait l'œuvre qui allait continuer à travers Paul, mais à travers aussi cette église locale dans cette région du monde. Et c'est pareil pour nous. Partout dans la parole, on voit que la foi qui sauve est une foi vivante. Et cette foi, elle a un lieu de résidence. Si je vous demandais où réside la foi, la réponse biblique, c'est dans le cœur. Parce qu'on peut lire, par exemple, je vais vous donner une couple de versets qui nous montrent ça. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. On dit aussi, on lit aussi dans Proverbe 4, 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Et la vie, ce qui nous rattache à Christ, notre vie, au Dieu vivant, c'est la foi. Et on sait que Dieu regarde où? Il regarde à l'apparence. Hein? Dieu, il voit quelqu'un, « Ah, oh, il est beau, il est grand, je vais m'en servir. » Non, Dieu regarde au cœur. Et donc, le cœur, c'est le siège de la foi. Par contre, et là, vous avez vu, on a parlé de raisonnement. On l'a lu, on n'a pas parlé, mais on l'a lu. Les raisonnements et les hauteurs, on pourrait dire les imaginations. Ça, on va parler de ça un peu dans les deux messages-là, mais on va en développer encore plus dans le mois de juin. Nos raisonnements. Où est-ce qu'on peut s'imaginer? Est-ce qu'ici, il y a des gens qui sont prompts à se faire des scénarios? Le ciel, il y a des gens... OK, on n'a pas toutes la même nature pécheresse, mais il y a des gens que leur nature pécheresse a plus tendance à ci pis ça, OK? Puis il y en a qui sont très bons là-dessus, là. Voici scénario numéro 1, ouais, puis là, tu sais, les peut-être si, mais si, ça, ça l'arrive, puis s'il y avait un messie qui veut vous envahir, dites « mais Dieu » à la place. « Mais Dieu ». Ça va mettre fin à vos messies, ça, puis si. Mais, comme je vous dis, là, je vous l'introduis. Aujourd'hui, mon introduction est plus longue parce que c'est l'introduction au message, mais aussi à tout ce qui s'en vient par la suite. Le Seigneur m'a vraiment donné une direction plus à long terme pour quelques semaines. Les raisonnements, les imaginations, ça, c'est pas dans notre cœur, c'est dans notre tête. De la même manière, est-ce qu'on a reçu Jésus dans notre tête pour être sauvé? On l'a reçu dans notre cœur. Mais de la même manière, pour demeurer en lui, c'est pas seulement une chose qui réfère à notre intelligence. Bien sûr, ça réfère à notre intelligence. On parle du renouvellement de l'intelligence, le renouvellement de l'esprit. Mais c'est plus que ça. C'est l'ensemble de notre âme, notre pensée, notre volonté, nos émotions. Ceux qui restent après-midi, on va parler de ça. Pensée, volonté, émotion, super, super important comme matériel dans Romains 6, notre étude. Mais pour ce matin, j'aimerais juste amener par rapport à ça que la sanctification, l'œuvre de grâce que Dieu fait dans la vie comprend tout notre être, pensée, volonté, émotion, et que ça, c'est dans le cœur. Le cœur, c'est le siège de nos pensées, notre volonté, nos émotions. On ne va pas faire une étude approfondie pour aller vous montrer ça, mais on voit dans la Bible qu'on pense dans notre cœur, on décide des choses, notre volonté réside dans le cœur, puis aussi on ressent des choses dans notre cœur. Le cœur fait référence à notre homme intérieur, ou notre femme intérieure, OK, pour ne pas faire de peine à personne. Mais là où il y a un conflit, c'est que souvent la foi n'est pas compatible, en fait, je dirais très souvent, la foi n'est pas compatible avec nos raisonnements, nos imaginations. En fait, c'est rarement le cas. Parce que la logique de nos pensées, souvent, ne fonctionne pas avec les plans de Dieu, ses voies et sa parole. Mais je vous pose une question. Est-ce qu'on peut plaire à Dieu avec nos raisonnements? Il y a une façon de plaire à Dieu, c'est comment? Par la foi. Et souvent, c'est là. Les raisonnements, les hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Dieu veut qu'on le découvre dans ce qui nous amène, puis nos raisonnements, nos pensées s'érigent contre le fait qu'on peut découvrir notre Dieu dans ce qu'il a décidé de nous envoyer. Parce que Dieu ne nous envoie pas des choses juste pour dire « Ah ben là, je vais éprouver ta foi, puis toi, ça va être dur, mais tu vas passer au travers. » Non, il veut se révéler à nous, il veut qu'on découvre comment il est bon, comment il est fidèle, qu'on ait un « wow » de qui lui, il est. Okay? Qu'on le découvre, lui. Et vous savez, et là, je fais le lien avec des choses qu'on a déjà vues dans le passé, mais comment il y avait d'arbres dans le jardin? Ah, c'est une question piège, hein? Ah, il y en avait plus que deux, mais il y en a deux qu'on... OK. Là, je voyais, Maxime, il a pogné mon affaire, parce que là, il hésitait, puis ça, puis j'ai vu... Yves, t'as-tu fait deux de même parce que t'osais pas le dire à haute voix? C'est une question piège. Il y en avait plus que deux, mais il y en avait deux vraiment importants. L'arbre de la connaissance, du bien et du mal, et l'arbre de vie. Et les raisonnements, où vous pensez ça réside tout le domaine de nos raisonnements? L'arbre de la connaissance du bien puis du mal. Quel en est le fruit? La mort. L'arbre de vie, demeurer en Christ, c'est dans le domaine du cœur. Christ qui est le vrai cep, le père et le vigneron, nous sommes les sarments, les branches. Demeurer en lui et porter du fruit, c'est du domaine de la foi et c'est de serrer sa parole dans nos cœurs. C'est tout le domaine de notre pensée, notre volonté, nos émotions qui sont soumis à la Seigneurie de Christ dans nos vies. D'où le grand besoin d'avoir cette relation vivante avec le Dieu qui nous secourt de nous-mêmes. Il est notre vie, il est notre délivrance, il est notre victoire. Il est déjà tout ça pour nous, et comme notre frère le priait tantôt, on veut se l'approprier. C'est pas parce qu'on on veut l'avoir parce qu'on l'a pas. On l'a déjà, mais on veut le prendre pleinement. Dieu, on a déjà tout pleinement en Christ, et c'est par la foi qu'on se l'approprie, qu'on en jouit dans la réalité de nos vies. Et donc, la grande tentation, la grande tromperie qui alimente le péché et beaucoup de problèmes dans la vie des enfants de Dieu, c'est se nourrir, entretenir nos imaginations et nos pensées lorsque Dieu envoie des circonstances. Il arrive quelque chose, puis là, le petit hamster commence à courir. Ah ben là, ça, puis ci, puis ça. C'est là qu'on tombe. On s'éloigne de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est quoi qu'on fait quand on s'imagine des affaires? La dépendance est de nous autres. On veut trouver une façon de s'en sortir. Et selon chacun comment notre chair allait, ben, il y en a qui vont aller avec une sorte de façon de s'en sortir, puis d'autres, ben, il y en a qui vont pogner les nerfs, il y en a qui vont se ronger tous les ongles jusqu'à temps qu'ils soient rendus au coude. Puis, je veux dire, il y a différentes façons qui vont exprimer la même tendance. Dépendance à nous-mêmes. Et ça, ça se manifeste de différentes façons, mais intérieurement, parce qu'on parle de guerre intérieure, c'est nos raisonnements. On pense à ça, puis ci, puis ça. Ou... Puis là, pensons pas juste à s'inquiéter avec ça. Des fois, il y en a qui vont faire de la fuite. Tu sais, ben, je vais pas y penser. C'est une autre façon que la chance manifeste. C'est juste pas la même que l'autre à côté qui va... Mais c'est des raisonnements. C'est un raisonnement qui va dire, ben, si j'y pense pas, ça va disparaître. C'est un peu la pensée Walt Disney, ou je sais pas trop, là, boum, la petite... la fée clochette, là, qui fait disparaître. Non, ça n'arrive pas, ça, dans la vraie vie. Si on fuit nos problèmes, ils vont nous rattraper un jour ou l'autre. Donc, la tromperie d'alimenter, de se nourrir à l'arbre de la connaissance du bien puis du mal. Hein, je vous l'ai déjà dit, la question la plus importante dans la vie chrétienne, c'est pas la question du bien puis du mal, c'est la question de la vie puis de la mort. Parce que la question du bien puis du mal, ça m'amène à dépendre de moi-même. Je suis capable, moi, de discerner le bien et le mal. J'ai la parole de Dieu. J'ai même l'Esprit de Dieu. Mais si je fais tout ça par moi-même, avec la bonne parole de Dieu, je vais dépendre de moi pour déterminer ce qui est bien et ce qui est mal. Mais si je vois la vie en fonction de la vie et de la mort, je ne peux pas moi-même produire la vie. Christ est ma vie. Et donc, ça va dépendre si... Face à ce qui m'arrive, au lieu de me dire, ben c'est quoi la bonne affaire à faire? C'est quoi la chose que je devrais pas faire pour être dans le trouble? Ça, c'est la question de bien et de mal. Si je me pose la question à ta peu, comment Christ veut manifester sa vie? Comment je trouve le Dieu vivant là-dedans? Là, je me pose la bonne question. Je me pose la question du qui et où ma dépendance? Il faut que je dépende de lui. Comprenez? Voyez-vous là? L'équation, là, il n'a que ça me fait demander la question « Ah, mais si tu viens, si tu mal? » Moi, c'est moi qui m'arrange avec ça. Ben là, je vais essayer de faire ce qui est bien, puis je vais essayer de pas trop avoir de mal avec ça, puis ok, on s'améliore, puis là, on raisonne. On est dans le mauvais arbre, dans le mauvais paradigme. Tandis que l'autre, quand on se pose la question selon la vie et la mort, on doit aller à celui qui est notre Dieu, on doit demeurer en lui. C'est la différence entre le jour puis la nuit. C'est complètement deux domaines. Et c'est là que Dieu nous amène à marcher par la foi. Les raisonnements, on peut faire ça sans la foi. Et c'est pire pour un chrétien qui aime le Seigneur, qui connaît la parole, parce qu'il est bien équipé pour tout se démêler avec le bien et le mal. Il a plus la tendance à s'arranger par lui-même, parce qu'il sait plus comment. Il a plus d'outils. Mais on n'a pas été créé pour ça. On a été créé pour dépendre de Dieu qui est notre vie. Donc, face aux problèmes de la vie, au péché, à toutes les questions, lorsque je me pose la question en fonction de la vie puis de la mort, ça va m'amener inévitablement à dire « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? » Il y a seulement Jésus qui est la réponse. Lui seul a le pouvoir de vie. Lui qui peut assujettir toutes choses et la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. m'affranchit de la loi du péché puis de la mort. Parce qu'on a beau essayer avec toute notre ingéniosité de se sortir de cette mort qui nous tire vers le bas, on ne sera pas capable. Dieu ne nous a pas fait pour ça. C'est lui qui est notre vie, qui peut, avec cette loi supérieure, l'esprit de vie, en Jésus-Christ, qui m'affranchit, me libère. Mais ça exige de dépendre de Dieu. Et pour ça, mes amis, hey, j'ai une mauvaise nouvelle. Dans tout cas, je vous la dis, même si c'est dimanche, mais j'ai une mauvaise nouvelle pour vous autres. Mais après ça, c'est une bonne. Toujours le même dans la vie chrétienne. Hein? Comment on a connu Jésus? On a vu qu'on était pécheurs. Puis ensuite, on a vu qu'il est le sauveur. Ben, la mauvaise nouvelle, si on veut dépendre de Dieu, il faut que Dieu nous brise. Qu'il brise notre volonté, qu'il brise nos plans, qu'il brise nos raisonnements, nos pensées. Ce qui nous anime, Dieu veut briser ça. Pas parce qu'il est méchant puis veut nous rendre misérables, parce qu'il est bon puis veut nous libérer de nous-mêmes. Le Dieu qui nous secourt de nous-mêmes. Pourquoi? Parce que Dieu veut briser tous les raisonnements de notre chair, les patterns de notre chair, ou ce qu'on appelle nos mécanismes de défense. Parce que ça, c'est comment que nous, on s'en sort nous-mêmes quand il arrive des choses. On est habitué depuis qu'on est petit de même. Dieu veut briser ça pour nous enseigner Christ. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. On apprend lui comme étant notre vie. Et donc, c'est une mécanique, si vous voulez, qui va court-circuiter les tendances de notre chair. C'est complètement réapprendre. Et merci Seigneur de nous donner son Saint-Esprit, qui nous guide dans toute la vérité. Et donc, on n'est pas orphelin, on n'est pas laissé à nous-mêmes. Je vous donne des exemples. Des choses nous font peur. Qu'est-ce qu'on fait quand on a peur? On se ramène au Dieu qui nous dit « Ne crains point, car je suis avec toi. Ne promène pas tes regards d'intérêt, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. » Voyez-vous, ça, c'est ma foi qui s'accroche à ça au lieu de tout ce que j'aurais pu penser par rapport à ce qui me fait peur. Quand j'ai honte de mon passé, j'ai honte du passé qui me rattrape dans mon présent, puis j'aurais le goût de me cacher de tout le monde. Qu'est-ce que je fais? Je me rappelle du Dieu qui me dit « Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux. » Parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Oh, Dieu qui nous a rachetés, qui nous a donné une valeur inestimable. Lorsqu'on s'en rejeté, qu'on est insécure, on se ramène à la parole qui nous dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Voyez-vous comment c'est la parole qui nous ramène à, est où ma foi? Ce qu'on doit retenir de tout ça, c'est où je place ma confiance lorsque les épreuves frappent. Et la réponse, c'est pas une place, c'est pas une personne ici-bas. C'est le Dieu vivant. Et c'est lui seul. Et Dieu, dans sa bonté, brise notre confiance en nous-mêmes, en ce que nous on a, pour qu'on la place en lui, qu'on découvre comment il est suffisant, comment il est bon, comment il est toujours là. Donc là, c'est une longue intro. J'ai juste deux points pour mon message. Les trois autres sont dans le prochain message. On va regarder dans les deux messages, les cinq choses à croire pour expérimenter la réalité du Dieu qui nous secourt de nous-mêmes. La première chose à croire, je dois croire à ce que Dieu est. Ce que je crois par rapport à ce que Dieu est. A.W. Tozer a dit « Extrêmement rares sont les erreurs doctrinales ou les échecs dans la pratique chrétienne qui ne s'expliquent ultimement par des pensées erronées concernant Dieu. » Le fait le plus important pour quelque homme n'est pas ce qu'il dit ou ce qu'il fait, mais quelle est sa conception profonde de qui Dieu est. Ce que je crois par rapport à Dieu, ça va définir tout le reste de ma vie. Par exemple, ça va me faire en sorte que je crois à des absolus. Parce que si Dieu est Dieu, il y a des affaires qui disent que c'est bien, que c'est mal, puis il y a des absolus avec Dieu. C'est pas relatif. Dieu n'est pas relativiste pantoute. OK? Si je crois que Dieu, qui il est tel qu'il révélait dans la parole de Dieu, la prière va occuper une place prioritaire dans ma vie. Parce qu'il est vivant, puis quand je suis dans le trouble, c'est vers lui que je me tourne. C'est pas juste, comme on fait des jokes, je vais pas juste dire une petite prière. Non, non, je vais invoquer mon Dieu du fond de la fosse pour qu'il mette mes pieds sur le roc.
Amen.
Lorsque je crois à qui Dieu est, tel qu'il est révélé dans la parole, ça va révéler comment je vais considérer, je vais m'approprier la grâce de sa vie, telle que révélée dans sa parole, d'une façon réelle. Et ça, c'est déterminé par rapport à ce que je crois au sujet de Dieu. Et ça va façonner ma façon de penser, ça va façonner ma vision du monde, mon approche de tout ce que je peux avoir dans mes relations humaines, dans les circonstances. Autrement dit, je vais m'approprier la réalité. Elle est là, mais je me l'approprie du Dieu qui me secourt de moi-même. Et on parle de guerre interne, guerre spirituelle interne. Des fois, on pense souvent à l'extérieur. OK, dans un monde qui est hostile à Dieu, Satan est le prince de ce monde et ça fait certainement partie de la guerre spirituelle. Mais là, on parle du côté interne, la chair à l'intérieur. Des fois, c'est intense, n'est-ce pas? Les pensées, des fois, s'agitent en foule au-dedans de nous. Oh, mais heureusement, les consolations de l'Éternel réjouissent notre âme. Mais qu'est-ce qu'on voit dans le verset 5? Nous renversons les raisonnements et tout autant qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Tout ce que je peux m'imaginer sur Dieu puis qui n'est pas vrai sur Dieu, ça doit être amené captif à l'obéissance de Christ. Une image vaut mille mots. Vous connaissez l'histoire de cette femme qui avait... Ça nous dit dans Marc, là je vais vous relater avec Matthieu, mais dans Marc on apprend c'est une femme syrophénicienne. Cette femme avait une fille malade, une fille possédée. Et donc, elle va vers le Seigneur Jésus pour la guérison. Et elle s'exprime avec beaucoup de force. « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Et donc, elle invoque le Seigneur. Et qu'est-ce qu'on voit là-dedans? On voit Dieu qui la secourt d'elle-même. Pourquoi? Parce qu'elle était dans une situation, elle était incapable de faire quoi que ce soit. Et c'est quoi? Probablement qu'elle a eu toutes sortes de pensées qui ont passé par la tête, sa fille qui est comme ça. Puis... Donc Dieu la secourt d'elle-même, secourt sa fille aussi. Mais c'est plus que ça. Il la secourt même de sa perception de Dieu. Parce que là-dedans, qu'est-ce que Jésus fait? Il répond pas. Puis quand il se met à parler, il dit « Je t'ai envoyé vers les brebis perdues de la maison d'Israël. » Donc la conception qu'elle peut avoir, « Ah ben oui, le Dieu c'est le Dieu des Juifs, c'est pas le Dieu des païens comme moi. » Donc, Dieu la secourt même de la... Jésus ne faisait pas ça pour la rejeter. Il faisait ça parce qu'il voulait... Au contraire, il faisait ça pour lui montrer que, malgré toutes les apparences, elle n'était pas rejetée. Parce que, oui, il a dit... Il n'a pas répondu. Puis quand il a parlé, ça ressemblait vraiment à du rejet, ce qu'il communiquait. Puis les apôtres étaient encore moins subtils. Ils disaient, renvoie-la, car elle crie derrière nous. Pas mal de rejet, merci. Mais qu'est-ce qu'on voit au bout du compte? Elle persévère. Et qu'est-ce qui arrive? Parce que là, Jésus lui dit, « N'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens? » « Oui, dit-elle. Oui, Seigneur, dit-elle. Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus dit, « Femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. » Et alors même, sa fille fut guéri. Vous savez pourquoi qu'on voit le triomphe de sa foi? C'est le triomphe de ce qu'elle croyait par rapport à Dieu. Le peu qu'elle connaît. C'est une païenne. Elle n'a pas été élevée comme les Juifs avec la parole de Dieu et tout ça. Le peu qu'elle pouvait connaître de Dieu, elle s'est accrochée à ça comme si sa vie en dépendait. Et sa vie en dépendait. Et elle a découvert Dieu comme elle ne le connaissait pas avant. Et ça, c'est une illustration assez vivide et puissante de ce que Dieu veut faire dans nos vies. On dit, ah ben, c'est une païenne, elle partait de loin. Ben, nous, là, nos pensées ne sont pas toutes régénérées puis conformes encore à la parole de Dieu. Puis on s'imagine encore des choses sur Dieu qui ne sont pas vraies. Quand on s'imagine qu'à cause des circonstances, parce que Dieu ne nous aime pas puis nous rejette, c'est nos imaginations, c'est pas vrai. Si on est un enfant de Dieu, la réalité, c'est qu'on est aimé, on est dans le bien-aimé, puis rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ.
Amen.
Mais on peut s'imaginer l'inverse. Puis Dieu veut nous secourir de nous-mêmes. Parce qu'on croit les mensonges, on a des raisonnements qui ne sont pas conformes à la parole. Puis des fois, c'est envers et contre tous. Même, on dirait que le Seigneur nous avait un message de rejet. Nos frères et sœurs dans le Seigneur, des fois, les gens du monde, puis tout ce qu'on pourrait croire au sujet de Dieu, c'est comme si tout va contre ça. Mais quand on s'accroche à Dieu tel qu'il est, puis vraiment ce qu'il nous révèle être, comme avec cette femme, c'est le triomphe de la foi. Donc, croire simplement la vérité par rapport à qui Dieu est. Et comme pour nous, puis pour cette femme, on a tellement besoin d'être secourus de nous-mêmes, parce qu'on est, à contre-courant dans ce monde. Mais Dieu ne change pas. Il est le rocher des siècles. Et on peut toujours s'appuyer sur lui. Et lorsqu'on s'attache à qui Dieu est, on passe à travers n'importe quoi. Pourquoi? Parce que ce n'est pas nous. C'est Dieu en nous. C'est sa grâce. C'est lui qui nous soutient. Ça m'amène au deuxième point. On doit croire qui Dieu est. Mais deuxièmement, on doit aussi considérer la deuxième chose à croire, c'est ce que je crois par rapport à qui je suis. C'est quoi un chrétien? Ou, pour le dire autrement, je lisais un livre dernièrement, puis le gars était avec, il dit, j'aime tellement ça enseigner dans un collège. OK? Puis là, il était dans un collège, j'assume que c'est un collège biblique, il ne spécifie pas, mais... Et là, il dit, t'es qui, toi? Puis là, la personne dit son nom, puis... Il fait le double, les gens vont dire ce qu'ils font, ils travaillent là, ils restent là, puis ils disent, je suis dans un collège, un institut d'enseignement supérieur, je m'attendrais à ce que les gens répondent à ma question, mais ça fait 5 minutes que je pose la même question, que je n'ai pas encore eu la réponse à ma question. T'es qui, toi? Qu'est-ce qui me définit? Moi, grand-père, souvent, puis grandement, tu sais, des fois, puis je dis ça là, avec tout respect, mais les vieux, là, on dit ça en Afrique, ça dérange pas ici, on dit pas ça, on n'a pas le droit d'être vieux. Mais tu sais, avec toute la noblesse, la vieillesse, que, on est des créatures du bon Dieu. Ça, ça nous définit. Plus dire que je suis électricien, je suis papa, je suis un mari. Puis c'est toutes des choses belles que Dieu nous donne dans sa grâce, mais ce qui nous définit, c'est Dieu lui-même.
Amen.
On est une créature du bon Dieu, puis quand on est sauvé, on est un enfant de Dieu. Ça, c'est ce qu'on est. C'est ce que je suis. Ce que je suis n'est pas défini selon ce que je fais, mais selon ce que Dieu a fait de moi. Puis si je ne suis pas sauvé, il m'a fait. Je suis une créature de Dieu, faite à l'image de Dieu, pas encore régénérée, pas encore rachetée. Mais c'est quand même ce qui me définit. Et lorsque je suis sauvé, bien là, on passe à toute une autre histoire tellement merveilleuse. Je suis un enfant de Dieu. Puis là, tout ce qui est là-dedans, là, waouh! Racheté, accepté, dans le bien-aimé. Puis là, je pourrais partir pour un autre message, mais ce que je suis, c'est déterminé par le Dieu qui m'a créé, le Dieu qui m'a sauvé. C'est ça qui me définit, ce que je suis. Et là, je vais prendre une autre petite tangente. Tu sais, des fois, on se demande par rapport à la foi, est-ce que quelqu'un est sauvé? Quelqu'un professe Christ? Puis est-ce qu'il est un chrétien? Tu sais, ce que je suis. Est-ce que je peux dire « je suis un chrétien » ou « je ne peux pas le dire » Ben d'abord, j'aimerais juste éclairer une question. Là. La question, c'est pas « qu'est-ce que je crois ?» Fondamentalement, c'est « qui est-ce que je crois ?» Des fois, on fait la question « ah, t'as-tu cru de la bonne façon ? T'as-tu cru ça ?» Non, c'est « qui tu crois ?» Est-ce que tu crois ce que Dieu dit sur toi, sur lui, puis sur comment être accueilli ? Qui tu crois ? Les enfants qui écoutaient ici, là, passez pas à côté de cette vérité-là. C'est important qu'est-ce que vous croyez. Je veux dire, on veut pas croire à n'importe quoi, puis à Pierre-Jean-Jean. Mais au bout du compte, la question ultime, c'est qui je crois? Est-ce que je crois le Dieu de mes parents ou c'est mon Dieu que je crois pour moi? Est-ce que je crois mes parents ou je crois le Dieu de mes parents qui est devenu mon Dieu? Qui je crois? C'est bien, là, de suivre les traces de ses parents, puis c'est merveilleux, c'est un héritage vraiment extraordinaire. Mais il faut que la foi soit personnelle. Mon Dieu, en qui je crois, je me confie. Et vous savez, ceux qui sont ici, qui viennent des milieux chrétiens, il y a un grand débat, puis là, il y en a un, MacArthur est d'un bord, puis là, il y en a un autre de l'autre. La Seigneurie de Jésus-Christ. Lordship Salvation. OK? Connaissez-vous ça, là, si j'amène ça, là? C'est quoi ça veut dire de recevoir Jésus comme mon sauveur? Sauveur, Seigneur. Savez-vous, comme bien des affaires dans la vie chrétienne, puis bien des débats, souvent, on réglerait bien des questions si on partait juste avec la bonne question. On réglerait bien des problèmes. Parce que souvent, c'est se poser la question. Le débat part en se posant la mauvaise question. Qu'est-ce que tu crois? Alors que la question est qui tu crois? Et foncièrement, le débat va tourner autour de la question du quoi, du comment. Et là, on se perd dans toutes sortes de dédales théologiques. Alors que la simple question, c'est le qui du salut. Et je vous amène cette vérité-là parce que dans la Bible, quand on parle de salut, ça nous réfère toujours à une personne. Le Rédempteur, le Sauveur, c'est lui le qui du salut. Et quand c'est lui qu'on... Quand on parle vraiment de lui, là, on se rend compte, c'est pas n'importe qui. Il est Seigneur. Et écoutez, je vais vous donner juste une couple de versets. Vous pouvez le regarder par vous-même par la suite. Mais 1 Corinthiens au chapitre 6, ça dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même? » Car vous êtes rachetés à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps et votre esprit qui appartiennent à Dieu. Quand on est sauvé, on ne s'appartient plus à nous-mêmes. Pour renchérir là-dessus, Romains 14, « En effet, nul ne vit pour lui-même, nul ne meurt pour lui-même. » Ça parle aux enfants de Dieu ici. « Car si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit donc que nous mourions, nous sommes au Seigneur. » Car Christ est mort et il est revenu à la vie, puis écoutez bien, afin de dominer sur les morts et les vivants. Dominer, on a ça, c'est du latin, dominus, en roumain, quand on dit dominus, ça veut dire seigneur. C'est bon, quand on dit monsieur, on dit dominul. Fait que, quand, si vous êtes roumain, là, vous faites appeler seigneur, les gars, c'est assez flatteur, hein? Puis les filles, c'est doamna, c'est seigneuresse. Non, mais c'est l'idée, OK? Mais dominer. La question fondamentale pour le chrétien, c'est est-ce que je vis dans la réalité de Dieu qui est mon Seigneur? Qui je suis, c'est ça qui me définit. C'est pas ce que je fais, c'est pas ce que j'aurais dû faire, c'est pas ce que je fais pas. C'est celui qui domine sur ma vie. Puis, et quand on prend dominer, là, c'est un mot qu'on n'aime pas. Là. La nature humaine rejette la domination de quelqu'un d'autre sur nous autres. Mais là, on parle du bon berger. On parle de celui qui ne veut que notre bien, qui ne fait que du bien. C'est la domination qu'on veut dans notre vie. Sinon, ben, on a une autre option. Nous-mêmes, le péché, le monde, moi, j'aime mieux choisir la domination du bon berger, du Dieu qui n'est que bon, vérité et amour. Je ne sais pas pour vous, là, mais pensez-y. On est insensé dans nos raisonnements. Ah, je veux pas que personne domine sur moi. Mais oui, quelqu'un domine sur toi. Puis si c'est pas Dieu, c'est l'ennemi, c'est tout ce qui n'est pas bon. Pensez-y, là, on est insensé dans nos raisonnements. On pense qu'on a quelque chose de mieux quand quelque chose d'autre que le Dieu bon et vrai domine sur nous. Fait que revenons à notre question d'être chrétien qui suis. C'est quoi être chrétien? C'est de connaître celui qui est notre Seigneur. Qui est notre Sauveur, qui est notre Seigneur, qui est notre vie. Trop de chrétiens ne vivent pas en connexion avec la réalité. Parce qu'ils ne vivent pas, ils s'imaginent toutes sortes de choses. Ils vivent dans un monde où ils sont le centre de leur vie. C'est-à-dire un monde où est-ce que ma vie et tout ce qui ça comporte est défini en fonction de ce que je fais. Ça, c'est un petit monde de licorne, c'est un monde imaginaire. Bienvenue, il y a tellement de chrétiens qui vivent là-dedans. Ah là, je fais ça, Dieu est content. Là, j'ai pas fait ça, puis Dieu est plus content. Puis l'autre, il fait pas ça, lui, il est pas fin. OK? Ça, c'est un monde imaginaire. Je suis le centre de ma vie. Alors que la vie chrétienne, c'est Christ en moi, l'espérance de la gloire. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est Dieu qui est le centre de ma vie. Autrement dit, c'est un monde qui est défini par ce que Dieu a fait de moi. C'est tellement, c'est le jour puis la nuit. Ce qui me définit ce que je suis, c'est pas ce que je fais, c'est ce que Dieu a fait de moi. Puis si je ne suis pas chrétien, ce qui me définit, c'est ce que je n'ai pas encore laissé Dieu faire de moi. Je suis perdu, la colère de Dieu demeure sur moi, je dois me tourner vers Christ, placer ma foi dans le seul qui peut me délivrer de la condamnation, de la colère de Dieu qui repose sur moi. Ce qui me définit, c'est rien de moi, c'est Dieu. Dieu est le Créateur, c'est lui qui définit tout dans ce monde-ci. Pourquoi l'herbe est verte? Parce que Dieu a dit que l'herbe serait verte. C'est ce qui définit, c'est Dieu, que c'est le Créateur, puis c'est pareil pour nous autres. Maintenant, pour revenir à la question, des fois on se demande, « Oui, mais est-ce que je suis vraiment chrétien? » Puis c'est pas une question que je veux passer trop rapidement, parce que souvent des gens sont élevés dans une famille chrétienne, puis ils se demandent, « Ben oui, moi je crois tout au sujet de Dieu, j'ai été élevé là-dedans, puis ben oui, c'est la vérité. » Mais là, ils ont des doutes. « Oui, mais est-ce que vraiment je suis sauvé, ou c'est juste des affaires dans ma tête? » Autrement dit, ils se posent la question entre le 18 pouces qui est entre là puis là. Puis c'est une question légitime, c'est une question très importante. Puis il faut la traiter avec délicatesse et avec vérité dans l'amour. Parce que c'est la question la plus importante de la vie. OK? Et donc, est-ce que je suis vraiment un enfant de Dieu? Bien, la Bible nous dit, c'est quelque chose qu'on doit amener devant Dieu. Examinez-vous vous-même, savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Autrement dit, c'est un examen personnel. Ne reconnaissez-vous pas que Christ est en vous, à moins peut-être que vous soyez désapprouvé. Et aussi, on apprend dans le psaume 139 que David demande « Sonde-moi, oh Dieu. Dieu, montre-moi, moi. Montre-moi vraiment. » OK? Ça, c'est la chose la plus importante. Puis, si c'est pas clair, la réponse est toujours dans le « qui ». Allez à Dieu, puis demandez-y « Hey Dieu, j'ai des doutes. » La Bible nous promet que si on le cherche, Dieu, on va le trouver. Vous n'êtes pas sûr, vous avez des doutes, allez à Dieu, parle. C'est pas plus compliqué. Allez à une personne. Essayez pas de chercher le pourquoi, du comment, puis du... Allez voir celui qui a la réponse, puis qui peut tout régler ça, comme juste lui peut le faire. Ça, déjà, vous faites ça. Si vous faites ça, vous allez le faire par la foi. Parce que vous cherchez Dieu, et vous croyez qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Vous êtes sur la bonne piste si vous faites ça, parce que vous avez des doutes avec votre salut. Allez à la personne qui a la réponse. OK? Mais c'est possible aussi, des fois, de perdre notre identité, même en tant qu'enfant de Dieu. Savez-vous que ça nous dit ça? Écoutez ce que ça nous dit dans 2 Pierre, au chapitre 1, et versets 8 et 9. « Car si ces choses sont en vous, là, ça nous parlait de toutes les choses, là, les vertus qui sont dans l'ouverture du chapitre, du premier chapitre de 2 Pierre. « Car si ces choses sont en vous, et sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. » Mais écoutez ce que ça dit au verset 9. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin, il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. On peut perdre de vue ce qu'on est, ce que Dieu a fait de nous. Perdre de vue la purification de nos anciens péchés. Pour un chrétien, ignorer la seigneurie de Jésus sur sa vie, c'est démontrer qu'il est en train de vivre dans un monde imaginaire, irrationnel. Elle a oublié qui il était, ce que Dieu a fait de lui. Ça, c'est tragique. Et c'est tellement répandu. Écoutez bien ce que je vais vous dire. L'Église de Jésus-Christ est détruite parce que les chrétiens ont oublié qui ils étaient. Parce qu'ils se définissent selon ce qu'ils font, selon ce qu'ils font pas, selon ce que les autres font, puis d'autres on fait pas. C'est du fait, qu'on oublie que ce qui nous définit, c'est ce que Dieu a fait de nous. On voit ça. Nous, notre Église, on fait ça, on se définit. Nous, notre Église, on est comme ça parce qu'on fait ça. Nous, notre Église, on est comme ça parce qu'on fait ça. Ou nous, on ne fait pas ça. Voyez-vous, on se définit tout par ce qu'on fait. Alors qu'un enfant de Dieu n'est pas défini par la sorte d'Église qui assiste, par ce que ça ne compte pas de nous autres. Un enfant de Dieu dit, moi, je suis un chrétien à cause que Dieu a fait de moi son enfant. J'ai mis ma foi en lui. Il est venu habiter en moi par son esprit. C'est ce qui me définit. Je suis un enfant de Dieu. Puis ça donne que je vais dans une église baptiste. Puis ça, comprenez-vous? C'est ça. On va en parler plus après-midi sur... Il y a beaucoup là-dessus, là, parce que notre chair, là, a souvent des tendances qu'on n'a pas pris maintenant. Si... Restez après-midi, c'est tellement bon. De toute façon, la communion. Puis si vous ne pouvez pas, écoutez-le. Il va être sur le site de l'église. C'est vraiment important. Bon, j'ai presque fini. Un enfant de Dieu est racheté pour appartenir à celui qui l'a racheté, avec toutes les implications que ça a. comme dirait Bunikou, that's it. That's it, man. On est racheté pour appartenir à celui qui nous a racheté. C'est ça la vie chrétienne, être racheté. Tout le monde connaît Romains 12, 1 et 2, hein? Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps en sacrifice vivant, sain et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. On connaît tous le verset, mais qu'on en comprend les implications. On parlait dans Romains 14, on s'appartient plus à nous-mêmes. C'est ça aussi l'idée avec Romains 12, 1 et 2. Lorsqu'on ignore ce qu'on est, pour dire on vit dans un monde imaginaire qui ne marche pas, je vais l'illustrer de cette façon-là. Là, je ne veux pas être inapproprié, mais imaginez-vous le mari qui va voir sa femme. Bien chérie, moi là, tu es vraiment importante pour moi dans ma vie. Je veux vivre avec toi, apprendre à te connaître, que tu sois vraiment le focus de ma vie. Fait que pour te le prouver, là, 5 jours par semaine, je vais être avec toi, je vais passer du temps avec toi, je vais juste passer 2 jours par semaine avec la secrétaire au bureau. Quelle sorte de... Ben, Jean-Lu Berlu dirait ça, là, mais... Mais transposons ça à la vie chrétienne, puis à être à Christ. Si j'appartiens à Jésus-Christ, s'il m'a racheté, c'est pas une affaire de 2 jours, semaine, un, puis l'autre. On s'appartient plus à nous-mêmes. Tu sais, ici, dans un mariage, ça nous fait rire parce qu'on trouve ça ridicule. Pourtant, on l'accepte pour la vie chrétienne. Partager, tu sais, quand ça nous dit « homme irrésolu », d'autres versions disent « partager », deux pensées. Ah, le monde, là, puis là. Divisé en deux. Alors qu'il y a zéro option, là. On ne s'appartient pas à nous-mêmes, c'est pas nous qui décident. Et donc, si on ne considère pas notre vie de cette manière-là, à la lumière de celui qui est notre vie, ben on est dans le piège des raisonnements. On est dans le paradigme de l'arbre du bien puis du mal. On est dans l'autosuffisance. Puis, on a perdu notre identité. On a oublié qu'on appartient à Jésus. Et c'est ça qui nous définit. Donc, je vous pose cette question en terminant. Peux-tu dire, en esprit et en vérité, que tu connais, que tu expérimentes et que tu grandis dans cette expérience du Dieu qui te secourt de toi-même? La vie chrétienne, c'est pas être parvenu puis regarder les autres de haut. La vie chrétienne, c'est expérimenter la grâce suffisante de Dieu qui, jour après jour, et des fois il y a des hauts, des fois il y a des bas, personne là, on peut regarder les autres, des fois il y a des bouts de plus tough, des fois on en arrache plus que d'autres, mais expérimenter la délivrance, le Dieu qui nous secourt de nous-mêmes. Et la semaine prochaine, on va voir comment tout ça, ça rapporte aussi au fait que Dieu nous a donné une nouvelle identité. Tout est nouveau en Jésus-Christ. On va développer ça la semaine prochaine, ce qu'on doit croire par rapport à ça. Mais ce que je veux simplement dire, comme appel pour le message ce matin, on a parlé d'être sauvé. Est-ce que vraiment tu possèdes le salut? Puis je termine de la même façon autant pour ceux qui connaissent le Seigneur que ceux qui ne le connaissent pas. Posons-nous pas la question, ah mais là, j'ai-tu bien cru? Puis allons pas dans le comment, puis dans le quoi. Allons simplement au qui, à celui. Si t'es pas sauvé, là, puis t'es pas sûr peut-être, là, va à celui qui sauve. Si t'as de la confusion, va à celui que ça, la Bible nous dit, celui qui croit en lui ne sera point confus. C'est la fin de la confusion quand on va à celui qui, lui, n'est pas mêlé avec notre salut puis ces affaires-là. Il n'est que vérité, que bonté, que grâce. Il n'y a pas de problème avec lui. Puis t'es ici, tu sais que tu es un enfant de Dieu, c'est solide, c'est ton identité, tu t'en réjouis, c'est ta paix, c'est ta joie. La sanctification, la victoire sur le péché qui nous enveloppe si facilement. Même chose. Il y a tellement de livres qui se vendent sur le comment avoir la victoire, sur qu'est-ce qu'il faut faire pour une vie chrétienne victorieuse et un mariage heureux, des enfants. La question, c'est le qui? Pour la grâce de Dieu grandir dans ses voies, c'est encore et toujours une personne. Une personne. Le Dieu qui nous a régénérés pour une espérance vivante. Alors invoquons-le ce matin. Simplement, allons à lui. lui le Dieu qui nous secourt de nous-mêmes. On te remercie, Seigneur. Tu nous appelles à toi. Tu nous appelles à te rencontrer. Seigneur, ici, toutes sortes de personnes ont toutes sortes d'arrière-plans, de personnalités. On est tous différents. Puis ici, en ce moment, on vit tous des choses différentes. Mais toi, tu es le même. Tu ne changes pas. Tu règnes éternellement. On peut toujours aller avec à toi, Seigneur. Tu es le roc inébranlable, le rocher des siècles. Et merci que lorsqu'on t'invoque, même du fond de la fosse, tu places nos pieds sur le roc de Christ. Inébranlable, sûr, certain. On te remercie pour ça, Seigneur. Ta parole a été prêchée, Seigneur, que ton peuple réponde par la foi à ce que tu as amené. Et s'il y a quelqu'un ici qui ne te connaît pas, comme son sauveur, comme le Seigneur de sa vie, le bon berger, le bienveillant rédempteur, je te prie qu'aujourd'hui, cette personne-là se tourne vers toi. Que tu enlèves la confusion qu'il peut avoir dans le cœur. Ou je devrais dire peut-être dans la tête et qui trouble le cœur. Que cette personne-là croit dans son cœur que tu es le seul sauveur. Seigneur, on s'en remet à toi. Que ta volonté se fasse au nom de Jésus. Amen.